Tout de suite, Abdennour Bidar, France Islam, questions croisées. Aujourd'hui, le Coran et ses interprétations.
Pour moi, je situe le fait de couvrir les cheveux comme un devoir éthique, ne relève pas du rite. Moi, personnellement, j'adopte une position médiane. C'est un passage du Coran qui l'a traité furtivement. Il y a des gens qui reprennent ce passage et lui donnent une intensité normative démesurée. Mais si la musulmane ne met pas, ne couvre pas ses cheveux, il n'a pas perdu de sa valeur spirituelle et morale musulmane. Il n'a pas commis un péché grave.
Le Coran et ses interprétations.
France, Islam, questions croisées. Abdennour Bidar.
Bonjour à tous. Je vous disais hier que le dialogue entre la France et l'islam doit avoir lieu aussi sur le plan spirituel. En l'occurrence, ce sont donc les racines chrétiennes de la France qui doivent entrer dans la discussion et nous aider à nous interroger sur la relation entre christianisme et islam. Combien de nos concitoyens d'origine ou de confession musulmane savent quelque chose d'un tant soit peu précis sur le christianisme ? Et en retour, combien de nos concitoyens d'origine ou de confession chrétienne ont plus que des rudiments de connaissance de l'islam ? Combien, parmi les uns ou les autres, savent que Jésus est présenté par le Coran comme un être surnaturel, créé à partir de l'Esprit de Dieu ? Je cite le Coran, sourate 19, Allah, le nom de Dieu en islam, a dit « Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, a mis entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. » Face à cet homme parfait, Marie prend peur et dit alors à Dieu, je cite toujours, « Je me réfugie contre toi, auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Et à ce moment-là, pour la rassurer, cet homme parfait qui est l'Esprit Saint de Dieu lui dit, je cite, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils, alors qu'aucun homme ne m'a touché et alors que je ne suis pas une prostituée ?» Il dit, « Ainsi soit-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui, de cet enfant, un signe pour les hommes et une miséricorde de notre part. » Voilà, nous tous qui sommes musulmans ou chrétiens, ou descendants de musulmans ou de chrétiens, nous devons savoir que Jésus est ainsi, dans le Coran, le seul être humain d'origine surnaturelle. Et si de la sorte nous connaissions mieux les uns et les autres nos fameuses « racines », elle nous rapprocherait au lieu de nous diviser. Tous les monothéistes, juifs, chrétiens, musulmans sont frères parce qu'ils sont fils d'Abraham, leur patriarche commun. Voilà ce qu'il faut enseigner d'urgence aujourd'hui à toute une jeunesse française où se banalise l'insulte à caractère religieux et où parfois se déchaîne la violence de l'antisémitisme ou de l'islamophobie. Et au-delà même de la fraternité d'Abraham, entre juifs, chrétiens et musulmans, ce qu'il faut d'abord recommencer à cultiver en chacun, c'est le sens et le goût de la fraternité de tous les êtres humains. Hier, je suis parti d'une question. Mais au fait, que dit vraiment le Coran ? On vient de voir ce qu'il dit de Jésus. Mais bon, certains me diront que plus personne aujourd'hui ne s'intéresse à ces antiques questions de théologie. Et ils voudront savoir plutôt, de façon plus concrète, ce que le Coran dit vraiment sur le voile. C'est dans la sourate 24, verset 31, qu'il faut chercher la réponse. Je cite « Dis aux croyantes de baisser leur regard, de veiller à leur chasteté et de ne montrer de leurs atours, c'est-à-dire de leur charme, que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari. » Ou bien dit la suite du verset aux hommes de leur famille. Plus loin, à la sourate 33, verset 33, le conseil qui est donné par le texte est de ne pas s'exhiber comme le faisaient les femmes d'avant l'islam. Dans ces deux versets, c'est donc à la pudeur que le Coran exhorte. Comme toujours dans un texte, il y a la lettre et il y a l'esprit. Il y a les mots et leur interprétation. Cette question de l'interprétation est essentielle. En l'occurrence, ici, c'est une interprétation du Coran, une interprétation possible, parmi d'autres, de dire que la femme musulmane doit être voilée. Pourquoi ? Eh bien parce que le port du voile n'est qu'une forme de pudeur. Et il y a bien d'autres manières, en réalité, d'être pudique que de porter un voile. Toute femme qui est habillée décemment est pudique. Et il y a autant de normes de décence, autant de conceptions de la pudeur qu'il y a de sociétés humaines. Donc, il est tout à fait excessif de prétendre que le Coran ordonne le voile. En fait, il exhorte à la pudeur, ce qui est tout à fait différent. Et deuxième point, il s'agit également de remettre ces versets dans le contexte de la société arabe qui vivait à la Mecque au 7e siècle de notre ère. Imagine-t-on la distance temporelle et culturelle que cela représente ? Comment ne pas comprendre que justement, les formes prises par l'expression de la pudeur ont complètement changé entre-temps. Nous qui trouvons les modes vestimentaires de l'année passée démodés, comment pouvons-nous imaginer qu'un conseil vestimentaire formulé il y a plus de 13 siècles serait encore valable ? Certains me rétorqueront, évidemment, que la parole de Dieu est éternelle. Mais qu'est-ce qui est éternel ici ? C'est le conseil moral de pudeur, le principe éthique de la pudeur, et non pas les signes, le type de vêtements par lequel cette pudeur a pu s'exprimer il y a plus de 1000 ans. Et à ceci s'ajoute, encore une troisième chose, qui montre aussi à quel point l'idée que la femme musulmane doit être voilée demande à être discutée et relativisée, alors que les traditionalistes et les radicaux voudraient l'imposer comme une règle absolue et non négociable. Ma question ici sera très simple. Le Coran donne-t-il des ordres ? Le Coran énonce-t-il des commandements, des lois, des règles de vie ? Ou bien donne-t-il des conseils qui, comme on vient de le faire, demandent à être interprétés ? En fait, c'est encore une interprétation, un choix d'interprétation parmi d'autres, que de considérer que le Coran donne des ordres. Et de nombreux penseurs en islam ont considéré d'ailleurs qu'il donnait plutôt des conseils, qu'il formulait des recommandations, face auxquelles c'est à la conscience libre et souveraine de chacun de choisir ce qu'il doit faire. Ces penseurs ont fait observer aussi que le Coran parle par image, par symbole, et qu'il ne fallait surtout pas, par conséquent, le prendre au pied de la lettre. Le penseur indien Mohamed Iqbal, par exemple, que j'ai déjà cité ici et que le Conseil français du culte musulman vient de reconnaître comme un grand penseur réformiste de l'islam. Mohamed Iqbal, donc, écrivait en 1932 que, je cite, « Le Coran n'est pas un code légal ». Quand je vois nos médias se précipiter sur un tel ou un tel spécialiste de l'islam ou dignitaire religieux, pour lui demander fiévreusement « Mais que dit le Coran là-dessus ?» Je suis perplexe face à la nullité de la question. Parce que nous, Français, avec la culture littéraire et intellectuelle qui est censée être la nôtre, nous devrions être bien placés pour savoir qu'un texte, eh bien, ne dit jamais rien. Car ce sont ses lecteurs, tous ses lecteurs, chacun de ses lecteurs, qui lui font dire une multitude de choses en fonction de leur propre sensibilité et de leur propre regard. Il y a autant de lectures que de lecteurs, et donc autant de versions différentes d'un même texte qu'il y a de lecteurs. C'est pour cela qu'on dit avec raison qu'un livre est toujours écrit deux fois, par son auteur d'abord, par son lecteur ensuite. Chaque livre, surtout parmi les plus grands, parmi lesquels il y a tous les textes sacrés de l'humanité, chaque livre donc est un miroir dans lequel chaque nouveau lecteur trouve son propre visage et apprend à le déchiffrer un peu mieux. Le critère d'un grand livre, de son génie, c'est de s'adresser ainsi à un nombre inépuisable de lecteurs comme s'il parlait personnellement à chacun, comme s'il avait été écrit pour lui. Le Coran, il n'échappe pas à la règle. Il y a d'ailleurs une parole rapportée de Mohammed, ce qu'on appelle un hadith, qui fait allusion à cela. Mohammed aurait donné en effet à ses compagnons le conseil que chacun lise le Coran comme s'il venait de lui être révélé personnellement. Ce qui veut dire que toute sagesse, toute règle de vie tirée du Coran est en réalité personnelle. Et rien n'est plus absurde qu'une loi religieuse unique, une charia, qui donnerait les mêmes ordres à tous les musulmans de la terre depuis plus de 1000 ans, soi-disant au nom du Coran. Mais bon, la nature humaine étant ce qu'elle est, il sera sans doute toujours plus facile à un croyant, musulman ou autre d'ailleurs, de suivre une religion qui donne des ordres plutôt qu'une spiritualité plus exigeante qui lui demande de faire l'effort de trouver sa propre lecture du texte sacré. C'est tout pour aujourd'hui. Que la paix soit sur nous tous. À la semaine prochaine.
Merci Abdennour Bidar et à samedi prochain pour France Islam avec le visible et l'invisible.